théâtre d'Edmond Morel.
Marc Laberge, vous publiez aux éditions Planète Rebelle au Québec un livre récit et photographie intitulé Autour du monde. Alors c'est un livre assez extraordinaire dans la mesure où la qualité des photographies raconte déjà une histoire. Est-ce que en tant que photographe vous êtes aussi conteur?
Oui, je pense que, de métier étant un conteur, je pense que j'aime bien, ça doit influencer mon type de photographie. J'aime bien les photos, les images qui parlent, qui racontent. Et puis, je pense que ça se traduit, on le ressent lorsqu'on feuillette mon dernier livre, où on retrouve, si on veut, cette photo qui fait non seulement présenter des lieux, mais on dirait que il y a comme une espèce d'invitation à entrer à l'intérieur et pour et il y a presque un échange qui se fait, je pense, avec les photos, que ce soit des photos de personnes ou de paysages. Il y a, je crois, vous avez raison, un peu cet effet qui est recherché et dans la mesure du possible qui peut être réussi, mais c'est à vous de voir.
J'ai eu le sentiment aussi, je n'ai pas eu le temps de lire tout le livre, mais de regarder les photos, j'ai le sentiment aussi que, outre le fait de raconter un paysage ou un visage ou un endroit, vous étiez aussi à la recherche de la rencontre.
Oui, ben, dans ma démarche de photographe, je dirais que j'ai toujours été fasciné par les grands espaces, les régions volcaniques, les glaciers, les forêts, les longues randonnées. Et avec le temps, je me suis rapproché de plus en plus des gens. Et j'ai tenté d'aller beaucoup à la rencontre de l'autre. De prendre le temps de regarder. D'ailleurs, quand je voyage, une chose que j'aime beaucoup faire, c'est faire le badaud, m'installer quelque part et simplement regarder les gens vivre, éventuellement faire quelques photos, mais c'est même pas, parfois, c'est pas l'objectif, si on veut. De regarder les gens vivre, de les observer, et puis, je sais pas, de laisser venir ce que ça raconte, quoi. Qu'est-ce qu'on peut imaginer? Comment on peut imaginer les gens? Comment est-ce qu'ils peuvent vivre dans un environnement comme celui dans lequel on les voit évoluer? Qu'est-ce que ça peut être, leur vie? Et c'est quelque chose, moi, que j'aime bien faire, c'est-à-dire faire raconter des histoires aux gens qui passent dans la rue, simplement. Et dans les photos, je pense que ça se traduit aussi. J'aime bien essayer de saisir le regard qui dit, qu'est-ce qu'il peut bien y avoir dans cette tête? Qu'est-ce qu'on peut bien penser lorsqu'on est habillé pareil, qu'on est dans un tel décor? Et voilà, il y a un peu ça l'idée de la rencontre de l'autre, c'est-à-dire amener l'autre à se raconter, sans tenir compte de la barrière de la langue, si on veut. Si on est au niveau des signes, au niveau de l'inconscient, de l'immatériel, de l'intangible, si on veut. Et c'est un peu cette manière que j'ai de présenter les autres. Et ce que j'essaie de faire, ultimement, mon objectif, c'est un peu d'amener celui qui regarde la photo à sentir une sorte de curiosité qui, dans le meilleur des cas, comme je disais, l'amènerait à vouloir en savoir plus sur la personne qui est là. Et ça, pour moi, c'est déjà un premier pas vers l'autre, une démarche vers l'autre.
Vous disiez que vous étiez fasciné par les grands espaces, les paysages majestueux. J'ai eu le sentiment, en feuilletant le livre, que vous essayez, dans la mise en page même du livre, de réintégrer l'individu à l'intérieur du grand espace.
Oui, je pense que c'est une espèce de réconciliation avec dans tout mon parcours photographique. Au début, c'est ça, j'étais plutôt vraiment habité par ces grands espaces. Je viens d'un pays où il y a de grands espaces, où finalement, on est des familiers, on habite ces lieux sans fin, qui ont une mythologie particulière. Et j'ai, même à travers le monde, exploré ces régions-là. Et après, j'ai senti le besoin, justement, de montrer qui sont ces gens, qui habitent ces lieux. Et de voir comment ils ont réussi à s'adapter. Comme par exemple, dans le Grand Nord, il y a un des reportages photos du livre qui se passe en Terre de Baffin, qui est dans le Grand Nord canadien, en pays inuit. J'ai essayé, si on veut, de mettre les gens dans leur milieu, comme des scènes que j'aime beaucoup. C'est une image toute petite, toute simple comme photo, où on voit une maison moderne qui était construite dans le village, dans le nouveau village, et à côté, les gens qui ont senti le besoin de construire une tente traditionnelle pour continuer d'avoir deux types d'activités. Et à côté de la tente, eh bien, évidemment, au lieu d'avoir une voiture, eh bien, on a encore le traîneau qui est là sur la terre, parce qu'en fait, il sert juste l'hiver. Mais cette espèce de contraste, j'aime beaucoup ces images où on sent le contraste de la vie qui, revenons-en à votre question, qui témoigne, qui montre ce que les gens ont vécu, ce que ces gens-là ont vécu, c'est-à-dire le passage d'un monde traditionnel à un monde plus moderne, à une occupation moderne. Et ça, c'est récent. C'est récent pour plusieurs peuples dans le monde, entre autres les Inuits. Vous savez, encore dans les années 1950, les Inuits, ils vivaient l'hiver dans leurs igloos. Et ils étaient... Et ils avaient développé un mode de vie et ils s'étaient adaptés de telle sorte qu'ils étaient parfaitement confortables. C'est nous, avec nos concepts, si on veut, de modernité, quand on est arrivé là, on s'est dit, ça n'a pas de bon sens que les gens vivent comme ça à l'extérieur. On s'est dit, on va leur construire des maisons. Mais en fait, ça a beaucoup accentué le changement de société, une perte d'identité. Mais par contre, vous savez, dans un igloo, quand il fait un degré à l'intérieur, c'est le confort total. On enlève même, on commence à se dévêtir. Hein? On peut être torse nu dans un igloo lorsqu'il fait un degré. Et lorsqu'il fait deux degrés, qu'est-ce qu'on fait, vous pensez?
C'est horrible.
On se rhabille. Parce que c'est à 2 degrés, il commence à se créer une humidité à l'intérieur de l'igloo à cause d'une humidité qui se forme sur les parois de l'igloo. Et à ce moment-là, on baisse la flamme pour essayer de ramener le plus rapidement possible la température à 0 ou 1.
Ce que vous venez de raconter est un des reportages de votre livre « En terre de Baffin ». Il date de 1986. Est-ce que vous avez modifié votre manière de photographier, d'aller à la rencontre des autres que vous photographiez entre 1986 et, je pense, 2005 au Burkina Faso, qui est dans ce livre-ci la date du dernier reportage?
Bon, je pense que c'est une manière totalement différente de voyager. D'une part, ça se manifeste dans le choix de la destination. C'est-à-dire que quand on décide ou qu'on entreprend de faire un voyage dans le Grand Nord, dans des régions où il y a à peu près moins d'un habitant par kilomètre carré, c'est certain qu'on fait un autre type de voyage que lorsqu'on va en Afrique et qu'on se retrouve dans ce coin d'univers où il y a une très forte population et qui a subi une influence culturelle, qui a développé une identité complètement différente. C'est certain que dans le livre, ce qui peut être intéressant pour l'observateur, si on veut, qui est intéressé à un deuxième niveau au-delà des photos, au-delà des textes, c'est de voir justement, à travers les années, le changement d'approche Je pense que dans les années 80, je photographiais plus les gens de loin avec des téléobjectifs. Et avec le temps, j'ai changé d'objectif pour en venir à travailler avec une lentille normale ou même parfois avec un moyen grand angle ou un grand angle.
Pour ceux qui ne sont pas photographes, ça veut dire que vous vous rapprochiez de l'interlocuteur que vous aviez en face de vous.
Voilà. Pour les non-photographes, ça implique qu'au lieu de prendre pour photographier quelqu'un, au lieu de photographier de loin, comme si on volait l'image, d'une certaine manière, qu'on la prenait sans échange avec la personne photographiée, j'en suis venu à travailler de beaucoup plus près et de réduire vraiment presque au minimum la distance. Et je dois vous dire que c'est ça, je me revois encore en train de faire certaines photos où tout le monde, même les gens à côté, sont presque mal à l'aise au point où j'en suis proche, si on veut. Et par contre, l'idée, c'est de faire en sorte que la personne que vous photographiez va garder un naturel, va sentir la situation comme acceptable, si on veut. Et ça, c'est quand même une démarche de plusieurs années.
Est-ce qu'on peut dire que dans ce cas-là où le photographe se rapproche de la personne qu'il a envie de photographier, dont il ressent le besoin de photographier, est-ce qu'on peut dire que le rapport entre le photographe et le photographié est modifié, mais dans les deux sens, c'est-à-dire que celui qui est photographié regarde aussi différemment celui qui photographie?
Absolument. Quand on travaille de loin, on saisit plus à l'improviste. On peut faire d'excellentes photos. Hein, si les gens ne se rendent pas compte, on va avoir des gestes, des mimiques. Mais lorsqu'on travaille de proche, l'appareil photo est fait inévitablement partie de la rencontre. Il y a ce qu'on peut qualifier d'un obstacle. Le défi du photographe, ça va être de faire en sorte que l'objet va faire partie de la rencontre et d'amener la personne à être en confiance de telle sorte qu'elle va avoir le même geste le plus proche possible d'un naturel et en présence aussi du photographe, la proximité, et d'arriver à ce moment-là à capter les regards et même d'amener la personne photographiée à porter son regard au-delà de l'appareil, c'est-à-dire aller même rejoindre les gens. Et ça, disons que c'est un autre niveau de contact qui ne fonctionne pas évidemment à tous les coups, mais qu'une fois qu'on a réussi à le développer, qu'on a réussi à sentir cette espèce de contact, appelons-le contact photographique, si on veut, d'une intimité photographique, tiens, voilà. Après, c'est quelque chose qui devient, qu'on essaie d'atteindre, qu'on essaie de renouveler comme expérience. Parce qu'il y a quelque chose d'assez fascinant, là, de réussir à amener l'autre à se donner un peu à l'image, si on veut, et de donner de lui-même.
Et dans ce cas-là, et le photographe et le photographié se donnent à l'autre.
Voilà.
Par la proximité.
Voilà, voilà. Et c'est de faire sentir aussi que... je sais pas, on est vraiment comme à un autre niveau de langage, mais de faire en sorte que la personne va comme être en confiance, va comme accepter que son image va continuer de vivre après. Là-dessus, d'ailleurs, j'ai une anecdote, j'étais en Turquie, à Istanbul plus précisément, et puis, comme je vous dis, un peu dans la manière d'avoir un contact avec l'autre ou de faire en sorte que je ne prends pas les photos simplement à la sauvette ou à l'improviste. Alors, souvent, j'arrive dans une place publique et je m'assois de manière très visible et là, je sors l'appareil photo. Et à l'époque, j'avais un appareil je transportais toujours avec moi deux ou trois objectifs. Et là, de manière très ostentatoire, je sors l'appareil, je change d'objectif, même si je n'ai pas vraiment besoin, pour être bien vu, bien entendu. Alors, ce qui fait que D'un naturel, le spontané, les gens qui ne veulent pas être photographiés vont s'éloigner un peu discrètement, vont beaucoup plus loin, vont regarder la scène de loin. Par contre, il y en a d'autres qui restent. Et je me rappelle, dans l'anecdote que je vais vous raconter, il y en a qui étaient là et qui non seulement sont restés là, mais sont venus à côté de moi. Ils sont venus, ils ont déplacé leur petit étal, les trucs qu'ils avaient avec eux, et se sont rapprochés. Alors, j'ai fait des photos avec eux. Et il y avait quelqu'un d'un peu plus loin qui avait une espèce de chariot sur roue, quelque chose d'un peu plus gros, qui se déplaçait moins facilement. Et là, je voulais bien faire en sorte qu'ils comprennent que je voulais le photographier. Et puis, ils ne s'éloignaient pas. Et puis, finalement, j'ai commencé à prendre des images. Et je ne sais pas, il y avait comme quelque chose, il me regardait d'une manière particulière, l'air de vouloir prendre contact, quoi. Alors, je me suis dirigé vers lui, étant donné qu'il ne pouvait pas se déplacer, et j'essayais de lui faire comprendre, de me laisser son adresse s'il voulait que je lui envoie la photo après, tout ça. Et bon, il parlait uniquement turc, et je ne pouvais pas, on ne pouvait pas communiquer. On a demandé à quelqu'un, il y a un jeune qui est venu, j'ai dit, est-ce qu'il peut nous laisser... me laisser son adresse, je vais lui retourner la photo. Et là, quand il a compris ce que je voulais, il m'a fait signe que non. Et il a dit, écoute, c'est pas la peine, maintenant je suis vieux, et avec d'un geste de la main, je vais partir bientôt, et puis je te laisse mon image, et toi, amène-la avec toi.
C'est une très belle histoire qui symbolise bien le type de rencontre, beaucoup plus en profondeur qu'on ne peut le supposer à partir d'un livre qui relate des voyages. Le voyage est différent lorsque c'est vous qui décidez de le faire, parce que c'est un voyage rencontre que vous projetez. Comment organisez-vous le voyage? Comment décidez-vous, tiens, je vais aller en Islande, en Pologne, au Burkina Faso, au Ladakh, qui sont quelques-unes des destinations de votre livre? Comment ça se passe le moment où vous dites, voilà, je vais aller là pendant autant de temps à telle époque?
Bon, c'est une question d'organisation de la vie. Il faut bloquer une période, un espace-temps, si on veut. Ensuite, l'idée, c'est de choisir dans les destinations où c'est pas trop dangereux, où c'est pas des zones qui sont déconseillées, ou je sais pas, je suis pas allé en Afghanistan, par exemple. Et d'ailleurs, je sais pas quel genre de photo j'irais faire là-bas. Je suis pas certain que ce soit mon style de photo. J'ai pu constater au cours d'une vie à faire de la photo que je suis pas quelqu'un qui... Je suis pas un photographe journaliste d'actualité, de guerre ou de conflit. J'ai un peu de difficulté à mettre ce type de photographie dans mon appareil. Alors, si on revient à la question, je vais décider de certaines destinations où je pense qu'il y a quelque chose qui m'attire, un lieu, là, je m'organise à partir de ce moment-là. Mais je m'organise de telle sorte que, bon, évidemment, je vais me préparer pour le voyage, mais je ne préparerai pas le voyage comme tel. C'est-à-dire que je fais partie de ces gens qui... essaie d'arriver dans un endroit, un pays, un lieu, peu importe, avec le moins d'idées préconçues. Je ne prépare pas les voyages parce que je ne veux pas décider à l'avance de ce que je veux voir. Bon, évidemment, il y a certains endroits où tu dis « je ne peux pas ne pas aller là », mais pour moi, c'est même là, c'est secondaire. Si je peux, je vais y aller. Mais... Donc, j'arrive dans des pays et c'est arrivé que des fois, je savais où j'étais pour atterrir. Et puis, de là, commençait le voyage. Et l'idée étant d'essayer d'arriver, comme je vous ai dit, avec le moins d'idées préconçues, le moins de préjugés, le moins d'attentes. Et avec cet esprit, j'appelle ça, la meilleure manière que je peux le décrire, c'est d'essayer d'arriver en homme neuf. C'est-à-dire, le plus possible, ce qui est impossible, mais le plus possible, déconnecté de ses références, de sa culture. Ce qui est impossible, comme je vous dis, mais essayer d'arriver pas avec ses propres critères, avec sa propre conception. Et là, pour moi, j'arrive et je regarde ce qu'il y a autour. Je regarde les gens, et je vais essayer de m'intéresser à ce qui fait la différence, à ce qui me semble significatif. J'aime bien les photos de détails, de petits détails de la vie, de la publicité qui est dans les rues, quel est le paysage urbain, le paysage humain. C'est maintenant beaucoup cet aspect-là qui m'intéresse, qui m'attire. Et quand j'arrive quelque part, comme je vous ai dit, je vais parler avec les gens. Et souvent, je vais organiser mon voyage en fonction de ce qu'on me dit, de là où les gens m'amènent. Et comme ça, écoutez, je ne suis pas quelqu'un, quand je vais dans un pays, je ne sais pas de faire tout le pays. Évidemment, j'aime autant en faire juste une partie et d'essayer de prendre un peu plus de temps pour rencontrer les gens, comme on disait tout à l'heure, puis de faire la photo, parce que ça prend du temps. Ça prend du temps.
Alors, et ce sera ma dernière question, Marc Laberge, avant de lire le livre. Il y a aussi, outre les photographies, la mise en page, il y a aussi des textes. Alors, que racontent ces textes que je n'ai pas lus? Est-ce que vous racontez les rencontres? Est-ce qu'il y a une partie dialoguée? Il y a une partie... Vous racontez votre histoire avec eux ou leur histoire avec vous?
Vous avez répondu à la question. C'est un peu tout ça en même temps. C'est curieux. Ce sont des récits s'inspirent, je dirais, de manière générale du pays visité, du lieu. Alors, ça peut être une anecdote, ça peut être un fait divers, ça peut être, une invitation quelque part où il s'est passé quelque chose, ça peut être une personne rencontrée, comme je pense au Maroc, où j'étais allé en 2002, et comme vous savez, au Maroc, on vous sollicite pour vous vendre toutes sortes de trucs, et puis après quelques jours, je commençais à être fatigué d'être continuellement, je dirais, harcelé, si on veut. Quand un jour, il y a un type qui arrive devant moi, c'était à Marrakech, dans le sud, qui me dit « T'es qui, toi? » Et je lui réponds « Je suis Ali Baba. » Parce qu'en fait, là-bas, tout le monde m'appelait Ali Baba. C'est à cause de ma tête un petit peu chauve et je sais pas quoi. Je devais correspondre à cette... Alors, je lui réponds « Je suis Ali Baba. » Il part à rire. Et j'ai dit, tout de suite, d'entrée de jeu, je lui ai dit, je ne suis pas intéressé à acheter quoi que ce soit. Mais il dit, je ne suis pas là pour te vendre quelque chose. Il me regarde dans les deux yeux et il me dit, tu portes bonheur, toi. Serre-moi la main. Évidemment, je lui serre la main. Et je lui dis, je te souhaite la plus belle chose que je peux souhaiter à quelqu'un. Je te souhaite une belle vie. Et lui de me répondre, je vends des tapis, oui, je sais que tu ne viendras pas, mais je te souhaite d'avoir un jour un tapis volant.
C'est magnifique. Marc Laberge, on va arrêter sur cette histoire que vous racontez et que vous comptez aussi, hein, puisque vous êtes aussi un conteur, mais là, on y reviendra dans d'autres rencontres. Je voudrais rappeler simplement le titre du livre « Autour du monde, récits et photographies » de Marc Laberge, et c'est publié chez Planète Rebelle. Merci Marc Laberge.
Avec plaisir.
Rencontre d'Edmond Morel.